Voilà. Avec aujourd'hui, parce que la dernière fois, justement, on avait étudié Dieu dans plutôt l'Ancien Testament. Et l'idée, c'était de voir comment Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, en fait, on commence à s'intéresser aux personnes divines, puisque Dieu n'est pas une sorte de on ne sait pas trop quoi. C'est quelqu'un qu'on peut rencontrer, donc on le rencontre dans des personnes. Alors, plutôt que de faire Jésus, le Père, le Saint-Esprit, on va faire des binômes. Donc, c'est une approche de la Trinité. Donc, on va faire Jésus et le Père. Et puis, la prochaine fois, on fera Jésus et l'Esprit-Saint. Bon, ça n'empêche pas qu'on parlera un peu du Père et de l'Esprit-Saint, mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là que ça se passe, puisque nous, on est catholiques, et donc on a bien le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. Donc, on a bien une sorte de filiation et de continuité. Donc, aujourd'hui, c'est Jésus et le Père. Et donc on va voir comment est-ce que cette alliance de l'Ancien Testament elle se concrétise avec un Dieu qui non plus pas seulement fait alliance mais qui vient nous rencontrer sur terre et manifeste le Père. C'est Jésus qui peut mieux nous parler du Père, donc c'est ça qu'on va étudier. Alors je voulais juste mentionner notre Père qui est aux cieux, c'est finalement notre prière quotidienne. Et quand Jésus nous enseigne cette prière, qui peut-être était celle qu'il disait lui-même à son Père, on n'en sait rien, mais après, il y a quelque chose de ça, dans ses demandes et dans cette louange. Et donc, Dieu nous est présenté par Jésus comme Père, comme son Père, plus précisément. Alors, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de Père, comment elle se traduit et qu'est-ce qu'elle nous dit. Et puis après, d'essayer de rentrer dans l'intimité de cette relation Jésus et le Père à travers notamment l'évangile de Saint Jean, puisque c'est celui qui a le plus parlé de cette relation entre Jésus et le Père. Il y a beaucoup plus de fois où le Père est mentionné dans l'évangile de Saint Jean. Et puis ensuite, l'idée c'est d'en déduire quelque chose sur qu'est-ce que ça nous dit finalement de la vie dans la Trinité, des deux personnes, Jésus et le Fils et le Père. Voilà. Alors, tout d'abord, Dieu le Père. Donc, déjà, ce n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament, puisqu'en fait, le mot Père est employé assez souvent dans l'Ancien Testament, même si c'est souvent métaphorique, au sens plus de Père comme créateur, que Père au sens plus générationnel, ou Père au sens où nous l'entend. Donc, le Juif, dans sa prière, emploie souvent le mot Père. Donc, on le voit dans des nombreux psaumes. Bon, je vous en ai cité 68, 89, mais enfin, il y en a une dans une ribambelle de psaumes. Et dans le Kaddish, qui est la grande prière qu'il fait quotidiennement. J'ai appris quelque chose parce que je ne connaissais pas le Kaddish, voilà. Donc c'est sa prière à Dieu, en fait, qu'il fait plutôt quotidiennement. Voilà. Par contre, il n'emploie pas le mot « Abba », donc « Papa », qu'on pourrait traduire comme ça, qui est trop familier. Et puis souvent, ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est que le mot « Père » est accolé avec « Notre Père » et « Notre Roi ». Donc ce qui dénote bien le à la fois Dieu est proche, il est Père, et en même temps, notre roi, c'est le tout autre, c'est celui qui règne. C'est le... Donc là, on retombe un peu sur ce que j'ai dit la fois dernière. Donc, je vous ai cité un certain nombre de phrases de l'Ancien Testament, au-delà des psaumes, qui parlent du Père. C'est intéressant de regarder comment il en parle. Donc, dans Deutéronome 32, « Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse ?» Bon, le peuple se fait engueuler. « N'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a créé, lui qui t'a affermi ?» Donc là, on a la notion de Père plutôt comme Père créateur, donc celui qui donne la vie. Dans Tobie 13, « Exaltez-le à la face des vivants, car il est notre Seigneur, lui, notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. » Donc là, c'est vraiment collé, notre Dieu, notre Père. Il est Dieu, donc on est bien encadré, donc c'est bien quelque chose de la dénomination de Dieu qui est Père. Donc là, on est assez dans une acceptation beaucoup plus grande. C'est la personne du Père. En Isaïe 63, « Pourtant, c'est toi, notre Père. Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous reconnaît pas. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. » Donc là, on est plutôt de nouveau dans la notion de Père filial, enfin, dans le sens le Père par rapport à des enfants, que sont les hommes. Et enfin, Jérémie 3:20, je me disais, vous m'appellerez mon père. Donc là, c'est Dieu qui parle par le prophète Jérémie et qui s'adresse au peuple Israël en disant, voilà, vous m'appellerez mon père. Donc on a déjà quasiment le début du Notre Père qui est dans l'Ancien Testament. Et puis Osée 11, oui, j'ai aimé Israël dès son enfance et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc là, c'est plutôt l'idée de montrer qu'Israël est le fils, donc le fils d'un père qui est Dieu. Voilà, et puis pendant les psaumes, on en a beaucoup d'occurrences, comme je vous l'ai dit. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu est donc mentionné et présenté comme Père. Mais par contre, l'Ancien Testament met énormément de distance avec toute référence sexuelle ou des références générationnelles, enfin de génération. Donc, il se concentre vraiment sur cette notion plutôt de paternité adoptive. Voilà, comme si Dieu adoptait le peuple d'Israël, le peuple élu. Donc, c'est une forme d'adoption, d'élection. Mais on va dire pour la paternité adoptive. Donc, ce qu'on voit avec le Nouveau Testament, c'est qu'on passe, en fait, on passe de la religion des pères, parce que finalement, c'est aussi une sorte de filiation, le père Abraham, et puis on remonte jusqu'à Dieu. Donc, il y a cette idée aussi de continuité de la tradition. Et donc, là, on passe à quelque chose dans le Nouveau Testament qui est le père de Jésus. Donc, c'est plus le père des hommes, c'est le père de Jésus. Donc, c'est très précis. Alors, le mot père, peu de statistiques. Le mot père est utilisé 4 fois dans saint Marc, 15 fois dans saint Luc, 42 fois dans saint Matthieu et plus de 100 fois dans saint Jean. C'est pour ça que je vous disais que c'est dans saint Jean surtout qu'on va l'étudier, puisqu'il y a énormément de fois, saint Jean utilise le mot Père. Jésus parle de son Père, donc dans la bouche de Jésus. Donc concrètement, Jésus nous présente Dieu comme son Père. Finalement, il se présente beaucoup plus comme Dieu comme son Père qu'il se dit lui fils de Dieu, puisque à de rares exceptions près, il emploie très peu cette expression-là. Donc il l'emploie, je vous ai mis les deux références dans Jean 10, 36 et Jean 11, 4, parce que j'ai dit je suis fils de Dieu et afin que le fils de Dieu soit glorifié. Mais donc c'est pas l'acceptation initiale, parce que derrière fils de Dieu, ça pourrait faire penser comme dans l'Ancien Testament à finalement fils comme on peut être tous fils de Dieu d'une certaine façon, parce qu'on est des créatures et parce qu'on est on essaye de suivre Dieu le Père. Donc du coup il emploie pas trop cette expression. Par contre, il parle beaucoup de son père. Et non seulement il en parle de son père, mais il lui parle. Donc, donc c'est une vie, quoi. C'est pas un discours théorique sur Dieu, Père. Enfin, voilà. Il fait pas de théologie, Jésus. Il dit, parce qu'il est le Verbe, mais il montre comment il vit avec son père et comment il vit de lui. Donc, j'essaie de faire un parallèle aussi entre finalement Jérémie, qui est peut-être dans l'Ancien Testament celui qui est le prophète qui est le plus intimement lié à Dieu, enfin qui a essayé d'être le plus en lien, en forme de cœur à cœur dans Jérémie, un peu douloureux, mais voilà. Donc même Jérémie, qui est pourtant très proche de Dieu, on n'a pas la même intimité que ce que Jésus nous révèle de son Père. Donc le prophète Jérémie, il se dessaisit de lui-même, il est serviteur de la parole, il reçoit cette mission quand même avec crainte et tourment un peu, hein. Jérémie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, sa vie, ni son âme. Voilà, mais finalement, le prophète, il peut passer de serviteur à ami, mais il n'y a jamais cette intimité, parce que dans Jésus, il y a quelque chose qui tourne autour de l'égalité, en fait, avec Dieu le Père. Donc ça, on le verra un petit peu plus dans les références ensuite. Et du coup, Jésus ne reçoit pas sa mission, ce qui est très différent du prophète. Il est le Fils, parce qu'il est en Dieu. Donc il n'y a pas ce côté, tout d'un coup, Jérémie, les premières phrases de Jérémie, c'est... dès le sein de ma mère, tu m'as choisi, etc. Donc il y a un côté, voilà, il a une mission à remplir. Et voilà, Jésus, il ne mentionne jamais ça. Il est juste en mission. Et il n'y a pas d'allusion à une mission confiée ou à quelque chose. Même dans le baptême, il n'y a pas ça du tout. Il y a écoutez-le, mais on ne dit pas maintenant c'est la mission et il va commencer. Donc en fait, c'est assez intéressant. Il n'y a pas cet écart. Donc le Père. Finalement, c'est celui qui est compliqué à atteindre parce que il n'a pas de mission temporelle. Donc, on ne voit pas très bien comment on peut l'appréhender, enfin le connaître vraiment dans sa nature profonde. Et on a pas l'impression que finalement il y a un père parce qu'il y a un fils. Donc voilà. Et donc finalement, on s'occupe de Jésus, le Fils éternel. Et puis le père, c'est forcément puisqu'il y a le fils, quoi. Voilà. Mais c'est pas plus que ça. Donc c'est pas exactement ce qu'on croit, c'est ce que j'espère vous croyez. C'est intéressant aussi de voir que dans le credo, finalement l'article sur le Père, il est quand même très très elliptique. Hein. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et c'est parti sur le Fils. Donc il n'y a pas grand-chose. En plus, on parle de Dieu Créateur, mais en fait, c'est bien mentionné aussi que le Fils... Quelque part, il est aussi participant de la création et qu'on invoque le Veni Creator. Donc, on dit bien que l'Esprit aussi a soufflé sur les eaux, voilà, c'est lui qui a fait aussi la création. Donc en fait, ce n'est pas un attribut, la création du Père, c'est peut-être valable pour les trois personnes. Donc ça ne va pas non plus caractériser. Donc finalement, dans notre credo, on a un très faible discours sur le Père. Voilà. Donc le Père, c'est vraiment celui qui a la source, qui ne garde rien pour lui, et qui, tout émane de lui, puis après, en fait, bah, on s'occupe des deux personnes, Jésus et du Saint-Esprit. Alors en fait, quand on écoute ce que dit Jésus, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Lui, il tient sur le Père un discours positif, il nous en parle, il l'interpelle, il fait pas du tout écran, il renvoie au Père régulièrement. Donc c'est pas du tout ce qu'il nous dit, donc c'est pas juste un père parce qu'il y a un fils, c'est vraiment le Père qui est la providence, l'action incessante, c'est lui qui a la volonté de salut, c'est lui qui envoie, et Jésus se soumet à son Père jusqu'au bout. Voilà, et donc il nous parle bien de pouvoir connaître le Père, et pas seulement juste d'invoquer le nom du Père, mais c'est vraiment de le connaître, le Père. Alors on voit que la mission du Christ, elle revêt deux directions principales. Il y a un, la révélation de l'être divin, et donc éminemment de la personne du Père, et le salut et la rédemption. Donc c'est le projet finalement du Père qui effectivement se crée par les deux personnes. Donc dans les deux perspectives, on a une vraie relation originelle avec le Père, qui n'est pas seulement celle de l'homme religieux qui peut s'entretenir avec Dieu, mais il est vraiment, Jésus nous dit, j'ai vu et entendu auprès du Père tout ce qu'il a à nous transmettre, nous les hommes. Voilà. Donc ça c'était un peu une introduction, déjà quelques thèmes placés. Mais après, je voudrais revenir plus précisément à Saint Jean pour qu'on voit un peu toutes les phrases qui sont dites, parce que finalement, rien que la collecte de ça, je trouve que c'est très parlant et ça peut être très nourrissant pour notre prière et la manière dont on vit la Trinité. Donc c'est vraiment à travers ce que nous dit Jésus qu'on découvre le visage du Père et puis qu'on découvre leur relation. Donc c'est essentiellement dans Saint Jean, comme je l'ai déjà dit. Alors, j'ai rajouté un petit complément sur l'historicité. Il y a tellement de textes dans Saint Jean, de discours de Jésus, notamment auprès de son Père, mais enfin de beaucoup de discours. Quand on regarde Saint Jean, c'est une collection de phrases de Jésus. Donc si on ne croit pas que Saint Jean était suffisamment proche de Jésus pour vraiment retranscrire les discours, en fait, beaucoup de choses de ce qui est dit, de ce que Jésus nous dit, de son Père, de ce que Jésus a dit, bah, du coup, si on a trop de décalage et qu'il n'y a pas une certaine historicité de la façon dont Saint Jean a capté ça de Jésus, bah du coup ça va devenir un discours un peu théorique refait après coup et on n'aura pas le vrai partage de ce que Jésus nous a vraiment dit de son Père. Voilà. Donc en complément, je vous ai mis quelque chose qui argumente quand même que Saint Jean est probablement celui qui dans les évangiles était au pied de la croix et que c'est le même que celui qui a écrit. Voilà. Donc il y a plusieurs polémiques. On verra après un petit peu le complément qui est plus historique. Mais je pense que c'est intéressant parce que le Père Giton nous a vraiment alerté là-dessus en disant, voilà, on ne peut pas d'un côté dire il y a autant de discours et c'est ça qui nous donne l'image du Père et de comment nous on peut le prier et de comment il est. Et en même temps, croire que ça a été écrit 3 siècles après par tradition orale. Parce que là, on a beaucoup de textes. Donc du coup, il faut qu'il y ait une certaine consonance pour que nous, ce soit quand même, ça puisse vraiment nourrir notre prière. Voilà, donc c'est important cette historicité qui peut nous paraître assez négligeable mais qui en fait est assez, assez importante. Alors j'ai mis deux parties, le Fils bien-aimé du Père, donc tous les textes qui montrent comment Jésus nous dit que le Père l'aime. Donc il y a Jean 3, 35, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Donc là on a l'amour qui est concomitant avec le fait qu'il a tout reçu du Père. Jean 5, 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Donc un peu la même idée, sauf que ce n'est pas il lui remet, c'est qu'en plus il lui montre, donc un bon père pédagogue. Jean 10, 17, c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Et Jean 14, 10, le Père demeurant en moi fait ses œuvres, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Jean 17, 24, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc on voit plusieurs choses. Déjà le Père aime le Fils. Manifestement, le Fils en est convaincu et nous le dit. C'est tellement important pour lui qu'il nous le partage. Et puis, il y a cette idée de toujours. Avant la fondation du monde, mais aussi cette idée de demeurer qui fait qu'il y a une certaine continuité dans le temps. Et cet amour éternel se prolonge dans la mission terrestre du Fils. Donc le père, il n'est, parce qu'il n'est que père, en fait, il aime le fils. Donc quelque chose, il y a quelque chose de tout donné. Donc c'est l'idée de, il lui montre tout ce qu'il fait, il a tout remis dans sa main. Demeure en moi, fait ses œuvres. Je suis dans le père. Voilà, donc il y a quelque chose, une sorte d'exclusivité de cette paternité. Et le père lui donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Le père agit à travers le fils. Donc là, ça dénote l'idée d'une seule volonté. Et le père aime le fils car le fils réalise le dessein du père. Donc quelque part, il y a comme si ce que fait le fils provoquait l'admiration du père. Voilà, qu'il en aime d'autant plus que le fils accomplit la mission que le père veut. Dans le baptême et la transfiguration, le ciel s'est ouvert au-dessus de Jésus. Donc on a bien cette communion de volonté. L'image des cieux ouverts, c'est la divinité qui est, enfin, la terre et le ciel qui communiquent. Sa communion de volonté avec le Père, la justice qu'il accomplit parfaitement, ouvre le ciel dont l'essence est justement que la volonté de Dieu y est totalement accomplie. Donc c'est un peu comme si les cieux ouverts, c'était comme dans notre Père, on a que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc l'idée qu'au ciel, c'est le royaume de Dieu, donc il y a la volonté qui s'exerce et que là sur terre, par Jésus, la volonté peut être totalement accomplie. Et puis il y a la proclamation par Dieu le Père de la mission de Jésus, laquelle ne définit pas un faire mais son être. Donc c'est ce que je vous disais un peu en introduction. Donc on n'a pas une mission qui serait maintenant voilà je t'envoie en mission, mais en fait il révèle que l'être même du Fils c'est d'être en mission en fait. Voilà, donc c'est une concomitance. Donc en Dieu, aussi bien du côté du Père qui n'est que Père, et c'est ça qui fait qu'il aime le Fils, et du côté de Jésus, il n'est que mission, donc il y a une sorte de nous, on a, chacun de nous est fils de quelqu'un, frère et sœur de quelqu'un, ami de quelqu'un, femme et mari de quelqu'un d'autre, voilà. Donc on n'est pas défini par notre relation, les relations nous aident à nous dire qui on est, mais on n'est pas exclusivement défini par une relation. Le père et le fils, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est qu'ils sont complètement définis dans leur relation. Voilà, et c'est le fils bien-aimé, celui en qui Dieu a mis tout son amour. Donc cette expression, elle est très belle. Et puis en plus, pour une fois, c'est pas dans la baptême et la transfiguration, c'est pas Jésus qui dit que son père l'aime, c'est le père qui parle directement. Alors ensuite, il y a une deuxième chose, c'est comment le fils est tourné vers le père et se reçoit du père. Et donc l'aime. Donc là, on a Jean 1,18, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. L'image tournée vers le sein du Père est très forte. C'est vraiment l'idée de ça dit l'intimité. Ça, c'est aussi, ça fait référence au sein de la mère. Enfin voilà, il y a quelque chose de contact très important. Et tourné vers le sein du Père, comme s'il cherchait la volonté du Père. Quoi. Il y a quelque chose de l'attention de quelqu'un qui se reçoit. Jean 4,34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc pareil, ma nourriture, c'est très fort, c'est ce qui me fait avancer, donc c'est ce qui me donne la force et l'être. Jean 5,19, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Donc là, on a le vis-à-vis de tout à l'heure, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean 5,30, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc on est très proche de 4,34. Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi, j'en parle un tout petit peu après. Jean 14, 31, il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Donc c'est la seule fois que Jésus dit textuellement qu'il aime le Père. C'est la seule phrase qu'il il dit, le reste du temps, c'est des périphrases, mais enfin il passe son amour comme s'il y avait une certaine pudeur. Et puis Jean 15, 10, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour, donc voilà, qui est une sorte de réciprocité. Donc on a une très grande pudeur de Jésus qui ne dit qu'une fois « j'aime le Père ». Et c'est le mot plutôt « agapé », donc pas un amour... Vous voyez la notion d'entre agapé et eros. Agapé, c'est l'amour... Il y a plusieurs mots pour dire amour en grec. Il y a agapé qui est plutôt l'amour... comment dire ? Non, qui est l'amour vraiment tout de don total. Il y a Eros qui a plus de connotations sexuelles, enfin en tout cas voilà, contact physique.
On reçoit.
Eros c'est plus c'est donnant quelque part aussi. Il y a cette idée là. Agapé c'est vraiment donner et il n'y a pas d'attente. Et puis il y a la troisième notion mais qui est très peu employée dans la Bible. Ça pour le coup c'est philae. Je suis pas très bonne en grec moi. Enfin je suis même pas du tout bonne. Je ne sais pas parler grec mais philae qui a donné plutôt l'idée d'amitié. Voilà. Donc c'est un degré un petit peu différent. Voilà. Donc là, c'est agapé, ce qui est l'amour le plus pur, on va dire. Et c'est ce mot-là qu'il emploie pour dire qu'il aime son père. Donc cet amour se manifeste dans cette réceptivité, cet accord avec la volonté du père. Donc on a une vraie corrélation entre l'amour du père et le fait qu'il se reçoit du père et qu'il fait la volonté du père. Et en fait, donc il y a la phrase « Le père est plus grand que moi » qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Et là, alors il y a beaucoup de pères grecs, justement, qui ont avancé plutôt que c'était comme quand on aime quelqu'un et qu'on va jusqu'au bout de ça, on considère que l'autre est plus grand parce qu'il y a une forme d'admiration, etc. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est plus petit. En tout cas, ça démontre cet amour de penser que l'autre est plus grand que soi. Voilà. Donc en fait, on a un double mouvement là dans ces phrases de Saint Jean. On a d'un côté, on voit bien que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et c'est manifesté dans la mission auprès des hommes, puisque c'est comme ça pour ça que Jésus est aussi sur Terre. Et donc dans Jean 14, 23, on a « Si quelqu'un m'aime, donc c'est Jésus qui parle, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et en Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Donc le Père aime les hommes à cause de son Fils, et le Fils aime les hommes à cause du Père. Donc il y a cet amour mutuel entre le Père et le Fils. Du coup, il explique aussi l'amour du Père et du Fils vers les hommes. Donc la révélation de l'amour divin fonde la mission de Jésus. Jésus révèle l'amour de Dieu, donc Dieu, l'amour en Dieu et l'amour de Dieu le Père. Et Jésus au Père, il nous fait entrer dans son amour afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Donc il y a cette idée de, pas seulement de parole, mais aussi de faire et que ça se traduise par des actes, enfin. Voilà. Donc tous les termes sur demeurer, sur l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, donc voilà, que ça alimente et que ça nous nourrisse. Donc on a complètement un effet miroir entre à la fois l'amour du Père et du Fils, et puis ce qui est manifesté dans le Jésus, quand il nous parle à ses disciples, quand il vient pour le salut des hommes. Et c'est un peu comme deux facettes d'une... Voilà, c'est une facette qui nous concerne nous directement, mais qui est complètement synchrone avec finalement l'être de Dieu et la relation entre le Père et le Fils. Voilà, qui fait quelque part comme ça, qui transpose pour nous. Alors après, j'ai un peu parlé d'un très très beau texte qui nous dit justement cet amour vécu entre le Père et le Fils. C'est le cri de Jésus, qui est dans Matthieu et Luc. C'est dans Matthieu et Luc, donc c'est pas dans Saint Jean pour une fois. Mais c'est très proche de l'évangile de Jean, parce que même s'ils n'utilisent pas les mêmes mots, parce que c'est pas les mêmes phrases, les mêmes vocabulaires, mais en tout cas c'est la même inspiration. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une, qu'il y a une inspiration joannique. Voilà, donc je vous relis le texte. Donc j'ai pris celui de Matthieu. « En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors on va un petit peu décortiquer ce que nous dit ce texte et qui reprend un certain nombre de choses qu'on a vues dans les phrases de Saint Jean. Alors tout d'abord, il y a la connaissance. Ce que tu as caché au... Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Donc on a le terme de connaissance. Alors la connaissance dans la Bible est employée aussi pour la connaissance d'un homme et d'une femme, dans l'union d'un homme et d'une femme. C'est une connaissance intime. Donc, ce n'est pas une connaissance superficielle ou très intellectuelle comme nous on a. Bon, ce n'est pas non plus forcément une connaissance sexuelle, hein, mais en tout cas, ça a une vraie connotation d'intimité. Et donc, cette connaissance, elle présuppose toujours quelque chose comme de l'égalité. Parce que pour qu'il y ait une vraie connaissance, il faut être sur un pied d'égalité, sinon c'est on est disproportionné. Connaître réellement Dieu présuppose la communion avec Dieu, voire l'union ontologique avec Dieu, donc unité d'être. L'unité de connaissance n'est possible que parce qu'elle est une unité de l'être. Donc à travers cette phrase, personne ne connaît le Fils sinon le Père et personne ne connaît le Père sinon le Fils, ça nous révèle quelque chose de l'égalité. La phrase est aussi balancée en termes réciproques qui montrent aussi l'égalité. Ça c'est d'un point de vue plus littéraire. La volonté du Fils. Donc on a Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Donc il parle de la volonté du Père, mais qui s'attribue complètement, puisqu'il est en train, juste après, il va réaliser un miracle en faisant la volonté du Père. Donc la volonté du Fils n'est pas arbitraire. La volonté du Fils ne fait qu'un avec la volonté du Père. Donc on avait dans les phrases au-dessus beaucoup de choses sur la volonté, avec cette idée de volonté unique. Dans l'épisode de Gethsémani, où on a Jésus qui dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », et donc quelque part, on a Jésus qui élève la volonté humaine, il a bien sa volonté humaine, qui l'élève jusqu'à la faire rentrer dans la propre volonté de Fils, et ainsi dans l'unité de volonté avec le Père. Donc c'est comme une ascension de la volonté humaine, et c'est d'ailleurs exactement ça qu'est la croix. C'est Jésus qui s'offre pour nous et qui nous permet de restaurer le lien avec Dieu, en fait. Et donc, on a bien cette sorte d'assomption de la volonté de Jésus, de sa volonté humaine, dans sa volonté de Fils, qui elle-même est l'unique volonté du Père, donc qui est la même que la volonté du Père. Et donc, on a vraiment cette conjonction des deux volontés qui est manifestée dans Gethsémani, mais qui était déjà mentionnée dans un certain nombre de phrases que je vous ai lues. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et là, on peut penser qu'il parle de sa volonté humaine. Et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, on parle de la consonance et de la conjonction entre ces deux volontés. Ensuite, il y a un terme autour de la simplicité des tout-petits. J'aime beaucoup ce texte parce qu'on parle de ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Voilà, il y a une sorte d'exultation sur la simplicité des tout-petits. Et pourquoi cette exaltation? C'est parce que l'homme, quand il est enfant, ben en fait, il accueille la volonté et la connaissance de Dieu, quand il se fait tout-petit, justement. C'est ce que nous fait toute expérience filiale. Et si on fait référence au sermon sur la montagne, on peut mieux comprendre pourquoi il parle comme ça. C'est heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc il y a quelque chose de la simplicité ou de la pureté. Après, c'est pas exactement le même mot, mais c'est un peu la même idée. Quand on revient à l'essentiel et qu'on est transparent, on voit Dieu. Et quelque part là, c'est on connaît Dieu. Voilà. Donc c'est la pureté de cœur qui permet de voir. C'est l'ultime simplicité qui ouvre notre vie pour qu'elle accueille la volonté de la révélation de Jésus. Donc être fils signifie être en relation. Ça signifie qu'on abandonne son autonomie et que quelque part on devienne comme un enfant. Et donc on a dans Jésus le paradoxe que d'un côté il se subordonne totalement au Père en tant que fils. Donc il est dans cet abandon comme du côté des tout-petits. Comme cet enfant, en fait, qui dit que son père est plus grand. Et en même temps, c'est justement à ce moment-là qu'il est dans un rapport d'égalité totale avec le père, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il reçoit complètement le père. Enfin, ça manifeste ça, si Jésus reçoit, il est toujours en réception du père, puisque c'est son être même. Mais le fait qu'il l'exprime comme ça, ça montre bien qu'en étant dans cette forme de dépendance, c'est pas une forme de dépendance au sens où, de soumission, mais c'est une forme de dépendance qui permet l'égalité parce qu'il reçoit tout du Père finalement, et donc il reçoit la toute-puissance du Père et tout ce que le Père peut faire. Donc on a bien ce paradoxe qui est à la fois que c'est dans la simplicité, dans sa relation réellement vécue, dans sa personne réellement vécue d'être fils, qu'il reçoit tout du Père et que donc il est égal au Père. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut dire « il ne fait qu'un avec lui, le Père et moi, nous sommes un ». Ensuite, il y a le thème du don gratuit du Père au Fils. Donc là, dans ce texte, voilà, il y a l'impression que voilà, il n'y a pas de raison. Tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Voilà, il déborde quoi. C'est de la générosité débordante. Alors c'est intéressant de faire un rapport avec le prologue de Saint Jean, puisque début de Saint Jean, c'est pas Fils. Jésus, il est d'abord présenté comme le Verbe. Et donc le Verbe, ça fait plus pressentir la divinité, donc la divinité au sens de parole, sagesse, le Verbe était en Dieu, Logos, et puis c'est le Verbe, la création du monde, elle s'est faite par le Verbe, par la parole. Et du coup, on a comme si c'était, dans cette présentation de Jésus en Verbe, une première reduplication de l'être divin, qui se donne comme un vis-à-vis et qui est complet, enfin qui est exactement de même égalité, voilà. Alors que le terme de fils, il laisse plus entendre la notion de relation personnelle, entre un donateur et puis celui qui se reçoit. Voilà. Mais comme la relation est éternelle, le don l'est aussi. Donc finalement, quand on a et le Verbe et le Fils, on a bien cette idée de, à la fois de, enfin ça donne de façon différente, cette idée d'égalité avec Dieu et d'être même de Dieu, et puis cette égalité, cette personne très différente qui est le Fils, qui n'est pas le Père, et pourtant qui est égal au Père. Voilà, donc c'est à la fois, ça nous parle un petit peu de l'unité en Dieu et aussi de la, des différences des personnes. Alors en fait, le Père dans la relation, il donne tout ce qu'il est, donc l'être divin et toutes les perfections qui vont avec. Il lui donne même le fait de pouvoir créer, il lui donne même le fait de processer, je pourrais dire. Enfin, qui est la procession du Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas comment on met dans l'autre sens, mais... Donc tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. C'est aussi dans Jean 17-10. Et finalement, il lui donne tout sauf la paternité, puisqu'elle ne peut pas se donner. Voilà. Donc le Père, il reste juste Père, en fait. Et tout le reste, il l'a donné. Donc c'est un amour vraiment total, au sens où tout est donné. Et pourtant, donc, tout est donné dans l'égalité, tout est donné d'un côté, tout est reçu de l'autre. Et il y a égalité et il y a en même temps deux personnes qui n'ont pas le même... qui sont pas le même personne, en fait. Voilà, qui d'un côté le Père et de l'autre côté le Fils. Et qui ne se confondent pas. Donc le Père est celui qui donne, qui a tout remis au Fils et qui a ainsi fait le Fils égal à lui-même. Donc on peut dire que le Fils, il n'est pas dans un peu comme s'il était tout le temps en train de naître. Voilà, il n'est pas en création, mais si on reprend l'image d'un père qui fait naître ses enfants, c'est un peu ça l'image quand même qu'on a du père. Et donc il y a quelque chose de, voilà, c'est comme si c'était éternellement en train de faire naître, puisque l'un est éternellement en train de donner et l'autre est éternellement en train de se recevoir. Donc c'est un peu comme si on avait l'acte créateur, enfin l'acte de naissance perpétuel. Voilà. Par contre, ce n'est pas un acte de création, puisque on n'a pas un... c'est pas à partir de rien, en fait. Le Fils, il vient du Père, il était tourné au sein du Père, c'est ce qu'on a vu dans la première phrase. Donc, il n'y a pas comme s'il y avait rien, et puis après, il y a un être, ça c'est nous, c'est la création. Mais il y a comme ce jaillissement perpétuel en Dieu lui-même, finalement. Donc, on n'a pas une duplication d'individu, là, et, comme nous, on est. Donc en fait, quand on contemple le Père et le Fils, et quand on contemple le Père avec les yeux du Fils, finalement, puisque c'est à ça qu'on est amené dans la prière, c'est comme ça qu'on est amené à être dans la prière, en fait, on entre dans la profondeur de cette générosité divine qui déborde, rebondit, et puis finalement qui est venue jusqu'à nous, puisque dans les rebonds, il y a ce qui déborde aussi jusqu'à nous. Alors ce don fait par le Père rejoint la création du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est intéressant, c'est ce qu'on a eu dans la... dans ce qui a accompagné l'adoration tout à l'heure, il a envoyé son Fils unique. Donc le mot unique, il renvoie d'un côté au prologue, où le Logos est dit le Fils unique, enfin, il y a une idée d'unicité dans le Logos, et puis ça rappelle aussi Abraham qui n'a pas refusé son Fils, le Fils unique qu'il avait à Dieu. Donc il y a cette idée, finalement, qui transparaît aussi dans l'Ancien Testament et dans la mission du Fils, qui est que le don du Père... En fait, il est comme parachevé par l'amour du Fils qui va jusqu'au bout en donnant sa vie pour les hommes. Et ça rejoint la phrase que je vous disais au début, que le Père est quasiment en admiration devant ce que le Fils réalise la volonté du Père et nous sauve, par le salut par la croix. Et ben, c'est quelque part, c'est ça que ça transparaît, c'est l'amour du Père jusqu'au bout dans le Fils. Jusqu'à la croix. Donc le mystère trinitaire de l'amour qui apparaît dans le titre Le Fils ne fait qu'un avec le mystère d'amour dans l'histoire qui s'accomplit dans la Pâque de Jésus. Ça, on voit, c'est assez intéressant parce que finalement, quand on accède à Dieu, au Père et aussi au Fils, en fait, on y accède par nous, notre regard de la création et donc de la manière dont Dieu est venu dans l'Ancien Testament avec l'Alliance, puis après avec Jésus, puis le salut. Finalement on y accède par la façon dont Dieu s'occupe de nous. Mais en fait il n'y a pas comme s'il y avait Dieu, il a sa vie, et puis après il y a un moment où il vient s'occuper de nous, et c'est un autre mode. En fait Dieu il est un, il est aussi simple au sens unicité des choses, enfin, c'est un terme philosophique pour dire qu'il y a une sorte d'unité, il n'est pas pluriel, et donc du coup il est le même quand il est en Dieu, donc l'amour du Père et du Fils, et quand il agit pour nous. Voilà. Et donc on a vraiment cette idée que dans le Fils qui se donne par amour pour nous sur la croix et qui va ressusciter, et ben en fait, on a l'exact pendant de ce qu'est l'amour de Jésus qui reçoit tout du Père et qui veut faire sa volonté. Voilà. Donc on est vraiment en transposition. Alors ensuite, il y a le titre « Le Fils » qui trouve sa place dans la prière de Jésus, qui est différente de la prière de la créature, donc même si on prie notre Père, mais c'est bien par Jésus qu'on le prie, dans Jésus, quelque part. Et donc la prière, c'est le dialogue de l'amour en Dieu lui-même. Donc on pourrait dire, la prière, Jésus n'en a pas besoin, puisqu'il est Dieu. Mais en fait, la prière, c'est éminemment un dialogue, et de la même façon que ce que je vous disais tout à l'heure sur la transposition, il n'y a pas de séparation. Donc Jésus, quand il prie son Père, en fait, c'est sa manière de dialoguer avec son Père, quelque part. Et c'est ça qu'il nous a donné dans la prière, en fait. Que nous, on fait très maladroitement et qu'on n'arrive pas à que ce soit un vrai dialogue, justement. Enfin, c'est compliqué pour nous, mais c'est bien exactement la même chose. Donc, on est bien dans ce dialogue de l'amour en Dieu lui-même. Et quelque part, cette prière, ce dialogue, le Père, il est tout dans ce dialogue et le Fils est tout dans ce dialogue. Donc, on a bien tout Dieu dans ce dialogue, en fait, dans cette relation. Parce que la relation, elle se manifeste. On l'appelait le Fils aussi le Verbe. Donc la parole a un sens. Donc le dialogue, ça a aussi un sens. Même si c'est souvent dans le silence, mais ça, c'est encore une autre forme de dialogue qu'on peut avoir en Dieu. Donc au titre de Fils correspond la simple formule d'interpellation Père. Et c'est là où l'évangéliste Marc nous a conservé le mot Abba dans la scène du Mont des Oliviers. Abba, Père, non pas ma volonté. Donc texte de la Gethsémanie. Et Abba, c'est vraiment papa, donc c'est vraiment comme un petit enfant qui appelle son père. Et donc à d'autres endroits, il dit juste père, il dit pas toujours mon père ou voilà. Donc père, c'est aussi il s'adresse vraiment à lui, quoi. C'est pas une personne un peu lointaine, c'est vraiment son dialogue. Donc la singularité de ce mot Abba, qu'à Jésus de s'adresser à Dieu, dénote une familiarité qui était complètement impensable dans le monde de Jésus. Très choquante pour la sensibilité hébraïque, il aurait été irrévérencieux et donc impensable de s'adresser à Dieu en utilisant cette parole familière. Et donc c'est très nouveau et très incroyable que Jésus ose franchir ce pas, parler à Dieu comme un enfant parle à son papa. Et quelque part ça nous dit comment Jésus avait coutume d'appeler Dieu son père. Ça dit l'intimité de cette relation, c'est vraiment une relation intime comme on peut avoir avec son papa. Et ça exprime aussi l'unicité du Fils, le titre Fils. D'un côté, avec son pendant Père ou Abba, nous fait entrevoir l'intimité de Jésus et plus encore l'intimité en Dieu lui-même. Et lui seul est vraiment le Fils, en fait. Donc on est passé de l'ancienne alliance où il y avait cette notion de Père, effectivement, quand même, mais qui était plus liée à la création, au fait qu'il y avait le peuple élu, qu'on essayait de voir. Et puis finalement, on voit qu'avec Jésus, en fait, Dieu le Père, c'est pas d'abord pour nous, c'est d'abord le Père de Jésus, en fait. Donc c'est d'abord ce Père-là qui est notre Dieu, en fait. Et du coup, quand on prie, alors ça on le verra un petit peu plus quand on aura dans deux cours sur la Trinité elle-même, mais du coup, c'est aussi pour ça, quand on prie toute la prière eucharistique, elle est tournée, ah oui, je le mets un peu après, elle est tournée, en fait, on s'adresse au Père, parce que finalement, c'est ce que Jésus nous dit, c'est lui, il se tourne vers son Père. Quand il nous donne la prière, la seule prière qu'il nous donne, c'est notre Père. Donc, ce n'est pas d'abord prier Jésus, même si finalement, pour nous, c'est une manière d'accéder au Père. Mais finalement, Jésus s'efface devant son Père. Et nous, quand on prie, en fait, on peut prier Jésus, mais quelque part, à travers Jésus, on prie, c'est son Père. Voilà. Et du coup, dans la prière eucharistique, on a bien toute cette prière qui s'adresse au Père, uniquement avec des invocations de l'Esprit Saint, avec un rôle de Jésus. Et puis, à la fin, on a par lui, avec lui et en lui. Donc c'est par Jésus qu'on a accès au Père, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment par le Fils qu'on découvre le Père, et c'est dans le Fils qu'il nous révèle ce qu'on peut dire du Père. Enfin, ce que lui peut nous dire du Père, c'est ce que nous on peut découvrir du Père, et qu'on est appelé quelque part à le connaître. Et c'est pas seulement un discours, c'est un vécu. Donc voilà, d'où le très important de relire cet hymne, hein, parce qu'il y a quelque chose de la vie et de comment Jésus vit avec son Père. De la même façon que c'est intéressant de voir le Notre Père quand Jésus l'a dit, c'est que ses disciples l'avaient vu prier et lui disent « Mais apprends-nous à prier, ça devait être magnifique pour qu'il dise ça. » Enfin, de se dire « Il se passe quelque chose là, on aimerait bien faire pareil. » Donc voilà. Du coup, c'est aussi donné juste après la prière. le Père est Dieu, donc Dieu au sens le plus original du mot. Donc ça veut dire quelque part, dans l'Ancien Testament, quand on parle de Dieu, en général, c'est Dieu le Père, en fait, on pourrait dire. C'est à lui que s'adresse donc d'abord avant tout nos prières, donc la prière classique, le Notre Père, etc. Mais en fait, comme il n'est jamais Dieu, le Père, sans son Fils et sans son Esprit, c'est-à-dire sans le don qu'il a fait de lui-même et sans l'extase de tout son être vers un autre et avec lui vers un troisième, du coup, quand on prie l'une des personnes, ben, en fait, on prie les autres. Voilà, parce qu'il y a tout est donné par le Père. Et donc, quelque part, dans la prière, bah, dans l'autre sens, quand on prie Jésus, bah, c'est tout donné au Père aussi. Voilà. Le Père est à l'origine du projet immense qui consiste à associer des êtres créés à son bonheur éternel pour se donner des fils dans son Fils. C'est lui qui, dans son Verbe, a conçu toute l'économie du salut. Donc, à ce projet collaborent le Fils et l'Esprit, chacun selon son mode, dans l'élan d'une même volonté. Mais c'est le Père qui est celui qui envoie, qui est source des missions. Et quelque part, il n'envoie pas Jésus et l'Esprit, voilà, il sait pas juste, bah, maintenant c'est à vous de jouer, quoi. Non, il est là en fait. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas d'envoi en mission, donc on revient toujours sur ce thème-là, puisqu'il y a, c'est un seul être, une seule volonté. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de décalage. Et en fait, vraiment réellement, nous n'accédons au Père que par le Fils, et nous sommes d'ailleurs, on peut se dire fils de Dieu uniquement dans le Fils. Donc c'est la paternité adoptive finalement de l'Ancien Testament, qui était une paternité plutôt filiale du père de Dieu créateur ou d'un peuple élu. Bah finalement, elle s'élargit dans cette paternité adoptive par le Fils, puisque maintenant nous sommes aussi des fils d'adoption, comme le dit saint Paul. Mais c'est pas du tout la même, enfin, c'est carrément plus grand que ce qu'avait l'Ancien Testament, puisqu'en fait, c'est une paternité adoptive qui nous permettent d'entrer dans la divinité. Donc on n'est plus en miroir comme le peuple élu, on a vraiment appel à aller, à nous diviniser. Donc c'est tout les thématiques où, voilà, c'est la phrase, une des dernières phrases que je vous avais lues là, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Et puis il y a une autre chose, c'est, et mon père viendra demeurer chez lui. Alors je ne sais plus où est la phrase, mais voilà, donc celui qui fait, celui qui m'aime ou qui me suit, ou qui... suit les commandements du Père, on viendra demeurer en lui. Donc, donc on va demeurer, on a part en fait et accès à la divinité. Donc quelque part on a une place dans l'intimité du Père et du Fils. Et du coup je ne peux pas ne pas finir avec Marie qui elle a vécu ça, puisque elle finalement bah, par son oui à la volonté de Dieu, parce qu'elle a voulu être vraiment la servante du Seigneur, bah, en fait elle a accueilli Dieu est vraiment demeuré en elle, pas mieux demeuré en elle, puisque Jésus, elle était voilà, remplie de l'Esprit Saint, et Jésus, elle l'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Donc il n'y a pas plus que enfin, demeurer, c'est pris au sens premier du terme, mais qui nous dit quelque chose de ça. Et donc Marie, par cette inhabitation, c'est finalement Dieu qui vient en elle, mais c'est ça qui lui permet de finalement de vivre en Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de l'Assomption, et que voilà, elle est en Dieu, et donc elle a part à la divinité. Et on peut même lui donner le titre de mère de Dieu, ce qui est quand même, pour les Juifs, qui est un scandale de la même façon que Abba Père pour Jésus. Voilà, il y a quelque chose elle a part à la divinité. Alors, on n'est pas des dieux, c'est clair, mais on a une part tellement dans cette intimité qu'on est comme des dieux. Voilà, c'est un psaume de l'Ancien Testament. Et surtout plus important, parce que être Dieu, c'est peut-être pas un objectif en soi, mais c'est plutôt qu'on a part à cette intimité, et donc quelque part, on vit de cet amour voilà, qui est en la Trinité, enfin entre le Père et le Fils. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si on a encore un tout petit peu de temps pour les histoires de datation. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions ?